bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre des contes de la Grande Faucheuse.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est aujourd'hui le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, ainsi baptisé par une équipe de publicitaires il y a 15 ans, l'occasion rêvée de nous pencher sur l'économie de la mort. Le passage de vie à trépas fait ressurgir de nombreuses questions économiques qui nous interrogent sur notre rapport à l'existence. Que transmettre et à qui ? Comment remédier aux inégalités face à la mort ? Et quel prix donne-t-on à la vie ? De la figure du croque-mort aux pompes funèbres, nous explorons cette semaine l'économie post-mortem. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage, de la place de l'héritage dans la société. Et pour cela, nous accueillons Nicolas Frémaux, maître de conférence en économie à l'Université Paris 2 et auteur des Nouveaux héritiers parus au Seuil. Nous accueillons également Jonathan Goupil-Lebray, chargé de recherche au CNRS à l'Université de Lyon. À 14h50, le journal de l'Écho vous sera présenté par Xavier Martinet.
Nous fûmes donc prévenus qu'un testament existait chez ce notaire et invités à assister à la lecture. Je me rappelle cela comme d'hier. Ce fut une scène grandiose, dramatique, burlesque, surprenante, amenée par la révolte posthume de cette morte, par ce cri de liberté, cette revendication du fond de la tombe de cette martyre écrasée par nos mœurs durant sa vie et qui jetait, de son cercueil clos, un appel désespéré vers l'indépendance.
Je sous-signais Anne-Catherine Geneviève Mathilde de Croix-Luz, épouse légitime de Jean-Léopold Joseph Gontran de Courcil, scène de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. Je demande pardon à Dieu d'abord, et ensuite à mon cher fils René, de l'acte que je vais commettre. J'ai souffert toute ma vie. J'ai été épousée par calcul, puis méprisée, méconnue, opprimée, trompée sans cesse par mon mari. Je lui pardonne, mais je ne lui dois rien. Mes fils aînés ne m'ont point aimé, ne m'ont point gâté, m'ont à peine traité comme une mère. J'ai été pour eux, durant ma vie, ce que je devais être. Je ne leur dois plus rien après ma mort. Les liens du sang n'existent pas sans l'affection constante, sacrée, de chaque jour. Un fils ingrat est moins qu'un étranger, c'est un coupable, car il n'a pas le droit d'être indifférent pour sa mère. Donc, je laisse en dépôt toute la partie de ma fortune, dont la loi me permet de disposer, à mon amant bien-aimé Pierre-Germain Simon de Bourneval, pour revenir ensuite à notre cher fils René.
Bonjour Nicolas Frémaux et Jonathan Goupil-Lebray.
Bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait d'une nouvelle de Maupassant intitulée « Le Testament », lu par Antoine Beauchamp et Anne de Pelchin. Madame de Croix-Luz décide donc de transmettre ses biens à son amant et au fils qu'ils ont eu ensemble. Que vous inspire ce texte et cette décision de déshériter un mari et des fils ingrats, Nicolas Frémaux ?
Ça pose la question de savoir à qui appartient vraiment le patrimoine du défunt. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tension entre le défunt et ses héritiers. C'est-à-dire que le rôle du testament, c'est ça, c'est de voir quelle est la liberté du défunt sur son patrimoine une fois qu'il n'est plus de ce monde. Et ce qu'on voit là ici, c'est clairement, il y a une volonté de passer par le testament pour justement de changer, enfin en tout cas avoir un effet sur ce patrimoine-là.
Maupassant parle d'un cri de liberté depuis le fond de la tombe pour exprimer ce que peut être un testament.
Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, ce qu'on sait qu'en France, c'est que le pouvoir du testament est assez limité, contrairement à ce qui peut se passer aux États-Unis, où là, on peut clairement déshériter tous ses héritiers, justement, tout transmettre à l'amant, la maîtresse, quoi, ou à n'importe qui. En France, justement, c'est un peu l'inverse. Finalement, le défunt a assez peu de pouvoir sur ce que peuvent faire les héritiers.
La liberté du défunt, c'est une liberté que le droit vient parfois encadrer, Jonathan Goupil-Lebray.
Oui, bien sûr. Donc on voit bien à travers cet extrait la dimension symbolique de l'héritage. C'est le moment où justement le défunt peut régler ses comptes d'une certaine façon avec les héritiers. Mais contrairement à ce qu'on a entendu ici, aujourd'hui, un défunt ne pourrait plus déshériter tous ses héritiers. En fait, on a une conception du droit en France qui est héritée au droit romain. Et en fait, le droit français essaye de protéger les héritiers en ligne directe, justement, de déshéritage. Et donc l'idée, c'est que un défunt ne peut pas justement favoriser sa maîtresse ou son amant ou les enfants qu'il aurait eu avec avec elle ou lui. Et l'objectif, c'est de permettre en fait aux héritiers qu'on dit réservataires de disposer d'un minimum de l'héritage.
Donc on ne peut pas déshériter dans le droit français, et alors ça nous oblige à passer peut-être par une étape de définition. C'est des termes que l'on comprend, mais qu'on a parfois du mal à différencier. Nicolas Frémaux, héritage, transmission, patrimoine, comment on peut différencier ces différents termes?
Il y a beaucoup de questions de définition qui se posent, et notamment après des questions de mesure aussi derrière, qu'on va peut-être aborder ensuite. Enfin, le patrimoine, c'est tous les actifs économiques qui sont détenus par un individu à un moment donné, donc ça va concerner tous les actifs immobiliers, financiers, professionnels. Et donc il y a déjà des questions aussi de définition, de mesure de la valeur aussi de ces actifs-là qui se posent. Et ensuite, la succession, c'est ce qui se passe au moment du décès, justement, c'est ce qu'on va mesurer, ce qui va être transmis, donc entre les différents héritiers, entre le conjoint survivant, entre les ascendants, les descendants s'il y en a, entre d'autres personnes derrière.
Et la transmission et la réception d'un patrimoine, on peut dire que ce sont des pratiques sociales qui peuvent donner lieu à des stratégies en amont de la transmission, mais aussi en aval.
Oui, il y a beaucoup de stratégies. Enfin, il y a tout un tas de modèles économiques justement qui vous disent que clairement, enfin, des modèles sociologiques aussi qui vous disent clairement que justement transmettre un patrimoine, enfin la relation entre le donneur et celui qui reçoit est essentielle. On peut donner de façon très intéressée, de façon très très désintéressée. On peut le donner vraiment par altruisme pur pour ses enfants et en même temps aussi leur donner comme attendre d'un échange derrière, notamment donner à vos enfants pour qu'ils vous aident ensuite quand vous êtes dépendant, etc. Donc il y a énormément de stratégies des deux côtés. Donc c'est pas forcément un espace de vertu complète.
Et ce qu'on comprend aussi, c'est que cette question de la transmission, elle est essentielle en sciences économiques, Jonathan Goupil-Lebray, parce que en miroir, ce qui apparaît, c'est la question des inégalités.
Oui, exactement. Donc, en théorie économique, en fait, on a mis en lumière ce qu'on appelle un arbitrage entre efficacité et équité. Donc, par exemple, un gouvernement peut vouloir mettre en place un système d'imposition progressif sur les successions pour limiter la perpétuation des inégalités d'une génération à l'autre. Mais alternativement, le fait de taxer les individus va modifier leur comportement économique. Et dans le cas de l'héritage, ça va modifier à la fois le comportement du défunt durant son vivant, mais également le comportement des héritiers. Et donc, tout l'enjeu pour la science économique, c'est d'essayer de mesurer l'ampleur de ces réponses comportementales, donc dans quelle mesure les individus vont modifier leur comportement d'investissement, d'épargne ou de consommation. Et donc ça, on le fait à travers la mesure de réponses comportementales. Et plus les réponses comportementales sont importantes, et moins l'État est à même de redistribuer les richesses.
Donc il y a un juste milieu qu'il faudrait trouver, Nicolas Frémaux, sachant que si l'on en croit les travaux de Thomas Piketty, l'héritage aurait retrouvé aujourd'hui l'importance qu'il avait au XIXe siècle.
Oui, c'est à peu près ça ce que montrent les travaux de Thomas Piketty. Il essaye de mesurer, notamment un des indicateurs essentiels, c'est de mesurer dans le patrimoine total que détiennent les Français ou les citoyens d'un pays à un moment donné, quelle est la part qui vient de l'héritage et quelle est la part qui va venir de l'épargne, de l'accumulation en propre des individus. Et ce qu'on montre, c'est que ça a beaucoup évolué au cours du temps. Donc il n'y a pas de fatalité à avoir une société avec beaucoup d'héritage ou peu d'héritage. Ce que montre notamment Piketty et aussi d'autres auteurs après qui ont essayé de répliquer ça sur d'autres pays, c'est que tous les chocs économiques et les chocs non économiques, donc les crises économiques, les guerres, notamment les guerres mondiales au XXe siècle évidemment, et ensuite les politiques fiscales derrière, donc de fiscalité des revenus, enfin l'État-providence en général, vont jouer beaucoup sur à la fois les niveaux de patrimoine et sa composition justement entre cette partie héritée et la partie accumulée. Et donc ce qu'on voit, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on voit, c'est que ça a fortement évolué au cours du XXe siècle. On a une sorte en France de courbe en U, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à la Première Guerre mondiale un poids de l'héritage qui est très important, qui a constitué jusqu'à 70 ou 80% du total justement du patrimoine. Donc c'est vraiment une société où les héritiers, où il y a très peu d'héritiers mais qui concentrent une énorme partie du patrimoine. Une chute ensuite pendant la première partie du XXe siècle, justement l'effet des guerres mondiales, l'effet de la fiscalité, et une remontée depuis les années 70. Donc aujourd'hui, en fait, on est, si on essaie de prendre une photographie du patrimoine, on a à peu près les deux tiers qui vont venir de l'héritage et un tiers à peu près qui va venir de l'épargne. Donc on est de retour à une société où l'héritage joue un rôle qui est prédominant.
Et ça, ce qu'on constate, c'est que le patrimoine augmente plus vite que les revenus, Jonathan Goupil-Lebray. C'est comme ça que ça se traduit?
Oui, alors exactement. Donc il y a la question de l'héritage. Donc l'héritage a augmenté, mais il y a aussi les patrimoines qui augmentent. Et ce qu'on observe, c'est que ce mouvement-là, il date des années 80. Et donc depuis le début des années 80, on remarque une augmentation forte à la fois du patrimoine par rapport aux revenus, mais aussi une augmentation de la concentration du patrimoine. Et c'est vraiment les 1% des individus les plus fortunés qui voient leur patrimoine augmenter beaucoup plus que le reste de la population.
Et on voit aussi que c'est une question d'âge, ce qui est assez évident, mais en l'occurrence, ce patrimoine est concentré dans les mains des seniors, et en particulier des 60-69 ans.
Oui, exactement. Et en particulier se pose le problème avec l'augmentation des prix de l'immobilier de justement cette dichotomie entre d'un côté des gens qui ont pu acquérir leur logement et donc qui bénéficient des prix de l'immobilier, donc ce sont plutôt les seniors, et les jeunes qui rentrent dans la vie active et qui eux ne sont plus capables de d'acquérir leur logement sans toucher un héritage. Mmh. Et donc se pose ensuite la question des inégalités au sein d'une même cohorte.
Alors on va essayer de comprendre comment ces inégalités se sont creusées, quel rôle l'héritage a joué. Mais d'abord, comment les droits de succession se sont-ils construits historiquement? Quel est le rôle que devrait avoir l'État? On va aller voir ce qu'en dit Rousseau dans ses Confessions, paru en 1782, une lecture par Antoine Beauchamp.
Il y a, par rapport à la disposition des biens, une remarque importante à faire qui lève bien des difficultés. C'est que, par la nature du droit de propriété, il ne s'étend point au-delà de la vie du propriétaire, et qu'à l'instant qu'un homme est mort, son bien ne lui appartient plus. Ainsi, lui prescrire les conditions sous lesquelles il en peut disposer, c'est au fond moins altérer son droit en apparence que l'étendre en effet. En général, l'esprit de ces lois que le gouvernement doit suivre dans leur application est que de père en fils et de proche en proche, les biens de la famille en sortent et s'aliènent le moins qu'il est possible. Il y a une raison sensible de ceci en faveur des enfants, à qui le droit de propriété serait fort inutile si le père ne leur laissait rien, et qui, de plus, ayant souvent contribué par leur travail à l'acquisition des biens du père, sont de leur chef associés à son droit. Mais une autre raison plus éloignée et non moins importante est que rien n'est plus funeste aux mœurs et à la République que les changements continuels d'État et de fortune entre les citoyens. Changements qui sont la preuve et la source de mille désordres, qui bouleversent et confondent tout, et par lesquels ceux qui sont élevés pour une chose, se trouvant destinés pour une autre, ni ceux qui montent, ni ceux qui descendent, ne peuvent prendre les maximes ni les lumières convenables à leur nouvel État, et beaucoup moins en remplir les devoirs.
Le droit de propriété ne s'étend pas au-delà de la vie du propriétaire, nous dit Rousseau. Nicolas Frémaux, en quoi est-ce que c'est une pensée révolutionnaire ?
C'est révolutionnaire au moment de la Révolution française aussi. Enfin, c'est pas mal remis en question, justement, avec cette question des privilèges où les statuts s'héritent, donc de génération en génération. Un des aspects que remet en cause la Révolution, c'est ça, c'est le fait de se construire par soi-même et de ne pas dépendre des générations précédentes. Et cette pensée, justement, qu'on devrait pas forcément avoir un droit sur le patrimoine une fois qu'on est décédé, on le retrouve aussi chez d'autres auteurs, chez Marx notamment, qui est pas vraiment critique sur le fait de transmettre de son vivant, qui est très critique sur le fait d'avoir encore un pouvoir sur ses héritiers. Et là, à nouveau, on a vraiment des grandes différences entre les pays, entre les conceptions du droit. Justement, en France, on va essayer de pas mal limiter quand même le poids, enfin, que peut avoir, enfin, le rôle que peut avoir le défunt. Aux États-Unis, c'est pas, ou dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout le cas, vu qu'on a une liberté testamentaire très forte et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Enfin, le défunt a encore un pouvoir très important au moment après son décès, finalement.
Et en même temps, ce qu'on entend aussi ici, ce sont des arguments en faveur de l'héritage qui sont exposés par Rousseau, et notamment cette idée que la transmission permet de maintenir un certain ordre social. C'est une idée qui a été présente assez longtemps.
C'est toujours l'ambiguïté, c'est qu'on a ces deux aspects-là. On le retrouve chez pas mal d'auteurs qui sont très opposés à l'héritage, comme donc ils disent que abolir vraiment l'héritage, ce serait nuire à la famille parce qu'elle serait plus capable de transmettre, ses valeurs. Donc on le retrouve, c'est parfois assez contradictoire chez certains auteurs. Parfois ça se tient un peu mieux, mais disons qu'on a toujours ces deux forces et qui font que c'est justement l'héritage un objet assez complexe à étudier parce qu'à la fois il y a des fondements économiques, notamment d'inégalité, d'accès à la même égalité des chances, et il y a ce côté cohésion familiale qui est mise en avant par pas mal d'auteurs. Oui.
Dans ses essais, Montaigne, deux siècles plus tôt, allait presque jusqu'à justifier le vol lorsqu'il est commis par un fils à qui son père n'aurait rien laissé. C'est le fait de déshériter est alors considéré comme l'injustice suprême, Jonathan Goupil-Lebray.
Oui, et à travers votre extrait, on voit bien la dualité entre deux notions. Donc on a la dimension symbolique de l'héritage où un individu aurait travaillé durant toute sa vie pour épargner, donc il renonce à de la consommation pour justement favoriser ses héritiers. Mais d'un autre côté, on voit que du coup, les héritiers vont bénéficier d'un héritage alors qu'ils ne l'ont pas mérité, entre guillemets, puisqu'ils sont juste nés dans la bonne famille. Et donc toute la question de l'héritage s'articule autour justement de ces deux notions ambivalentes.
Et le rôle de l'État passe par ces fameux droits de succession. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, alors Nicolas Frémaux, je vous laisserai peut-être nous rappeler dans quel contexte ils sont apparus et nous dire ensuite que peut-être la fiscalité ne touche aujourd'hui qu'une petite partie des successions.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la tendance qu'il y a depuis les années 80, alors qui est moins marquée en France qu'ailleurs, mais c'est une tendance à la suppression, à des allègements très importants de ces droits de succession. Donc on taxe de moins en moins d'héritage, alors qu'on est dans un contexte, on l'a rappelé, d'augmentation du poids de l'héritage, des inégalités. Donc il y a un côté vraiment contradictoire entre ce qui se passe. Donc ces droits de succession, en fait, ils sont nés, c'est un impôt très ancien, parce que c'est aussi très facile de taxer la mort, en fait. Il y a une transmission de propriété, donc c'est très facile de taxer quelque chose à ce moment-là, notamment, pour aussi le motif qui est simplement l'enregistrement, la transmission, justement. Donc pendant longtemps, justement, c'est seulement appelé un droit droit d'enregistrement. Et donc on le retrouve, en tout cas sa version moderne, il naît donc au moment de la Révolution française. On le retrouve après dans d'autres versions, il a évolué beaucoup au cours du 19e et notamment au début du 20e siècle où il devient progressif. Donc là, on va commencer à instaurer une taxation donc progressive des transmissions avec donc une augmentation du taux au fur et à mesure que la valeur de la transmission augmente elle aussi.
Jonathan Goupil-Lebret, sur l'histoire de ces droits de succession.
Oui, tout comme l'expliquait Nicolas, il faut bien comprendre qu'au moment de la Révolution, donc, il y avait des débats justement sur comment devait se définir l'impôt sur les successions. Et en fait, c'est une formule extrêmement restrictive qui a été retenue, puisqu'à cette époque-là, l'objectif de l'impôt sur les successions n'était pas du tout de limiter les inégalités, mais plutôt de garantir la transmission des droits de propriété d'une génération à l'autre. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on achète un appartement, on paye des droits de mutation à titre onéreux, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Et donc à cette époque-là, les droits de succession avaient exactement la même fonction. Donc en échange de la transmission des droits de propriété, on acquittait un petit pourcentage de la succession sous forme d'impôt qui s'appelle... et qui s'appelle toujours d'ailleurs droit de mutation à titre gratuit.
Et au fur et à mesure, cet impôt a évolué pour répondre davantage à un objectif d'égalité des chances.
Oui, mais ça s'est fait vraiment tardivement, parce qu'en fait, c'est plutôt pour financer l'effort de guerre que les gouvernements ont décidé de changer les modalités de l'impôt sur les successions. Et donc l'objectif, au début du XXe siècle, c'était de trouver des sources de financement pour l'effort de guerre. Et donc, il apparaissait légitime au gouvernement de taxer plutôt les individus les plus fortunés.
Et alors aujourd'hui, justement, la part des successions taxables est en diminution par rapport au milieu des années 2000. Elle était d'environ 30% avant 2007. Elle est aujourd'hui autour de 20%. Nicolas Frémaux, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce recul ?
C'est assez compliqué pour les économistes d'expliquer vraiment ce recul, parce qu'à nouveau, on a tous les arguments économiques, même si on les a pas tous évoqués encore, qui pousseraient une taxation des héritages, une taxation assez progressive, et dans le même temps, on a un recul de cet impôt-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il se passe vraiment dans un... Enfin, ce recul-là se place dans un recul de la progressivité de l'impôt en général. C'est qu'on a un même recul aussi de l'impôt sur le revenu. D'autres types d'impôts sur la détention de patrimoine, donc l'ISF en France par exemple, où vous avez des pays justement où l'abolition des droits de succession font suite à l'abolition de l'ISF aussi, donc le cas de la Suède par exemple. C'est un modèle souvent mis en avant, c'est un modèle où vraiment tous ces impôts liés au patrimoine sont été complètement supprimés, sont été vraiment allégés sur les revenus du patrimoine par exemple. Donc ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis son arrivée au gouvernement, à la tête de l'État, c'est à peu près ça, sauf qu'il a conservé, lui, les droits de succession, mais finalement, il a fait les deux autres étapes.
Mais il y a eu des mesures très concrètes qui ont permis de faire reculer cette part des successions taxables.
Oui, ça, donc dans les pays qui ont supprimé, ça rend la part taxable à zéro, évidemment. Et après, il y a d'autres, dans le cas de la France, il y a une augmentation des abattements. Donc aujourd'hui, l'impôt en France, il se calcule donc par héritier. Donc chaque héritier va recevoir, donc il a droit à un abattement sur le montant reçu. Donc vous pouvez recevoir.
Mettons pour un enfant 100 000 euros qui ne sont pas taxés.
Et vous commencez à payer au-delà des 100 000 euros, et vous avez, avant même finalement de calculer ces 100 000 euros, plusieurs biens qui sont exonérés, donc l'assurance vie sur laquelle vous avez consacré une émission, d'autres biens aussi professionnels, les œuvres d'art par exemple, donc vous avez en fait énormément d'abattements. C'est ça qui fait qu'en ligne directe, donc entre parents et enfants, vous avez entre 10 et 15% des successions qui sont imposées, les restes payent zéro derrière.
Cela traduit en tout cas une volonté de protéger les successions en ligne directe, c'est vraiment la philosophie de cet impôt, Jonathan Goupil-Lebret ?
Oui, exactement, parce que si on regarde justement la structure des recettes de l'impôt sur les successions, on se rend compte que 2/3 de ces recettes correspondent à une imposition en ligne collatérale, c'est-à-dire que ce sont des impositions qui se sont faites pour des héritiers qui ne sont pas les enfants ou les petits-enfants du défunt, mais
les
plutôt
cousins,
des cousins, des neveux ou des frères et sœurs. Oui. Et même en ligne directe, il faut bien comprendre que la majorité des héritiers en ligne directe sont exonérés de droits de succession. Et même pour les 1% des héritiers les plus importants, les droits de succession restent très modérés. Donc on a des taux moyens d'imposition qui ne vont pas dépasser 20%.
Des taux moyens, oui, mais alors il y a tout de même des taux qui peuvent monter jusqu'à 45% en ligne directe. Et ça, ça concerne les très très hauts patrimoines.
Oui, exactement. Mais c'est vraiment... Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des taux marginaux s'appliquent à la fraction du patrimoine au-dessus d'un certain seuil. Et donc au final, même si on a des taux marginaux qui peuvent paraître élevés, le taux moyen est souvent deux fois inférieur au taux marginal.
Et en même temps, ce qu'on constate, c'est que les recettes fiscales des donations et successions n'ont pas cessé d'augmenter ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Nicolas Frémaux?
Bon, en fond, elles sont restées assez stables. En fait, elles ont augmenté, enfin, elles ont aussi un peu diminué. Donc, ça représente 1% du total des recettes fiscales, donc ce qui est loin derrière la TVA, la CSG, d'autres impôts. Donc, c'est pas avec cet impôt-là qu'on va financer ou rembourser la dette de l'État, par exemple. Mais ce qui est important en France, c'est ça, c'est qu'on a un impôt qui est assez dual, où vous avez une stabilité ou une augmentation de l'impôt qui est due en fait à des changements qui sont le fait, par exemple, qu'il y a de plus en plus de personnes qui décèdent sans enfants. Donc, dans ce cas-là, justement, il y a encore moins de collatéraux, donc il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas forcément d'ascendants non plus. Et ces successions-là, qui représentent 10% du total des successions en valeur, en fait, payent la moitié en fait, des recettes fiscales. Donc, vous avez ce type de transmission très fortement imposé, qui fait que l'impôt a l'air de se maintenir. On pourrait se dire, bah, finalement, la France s'en sort plutôt bien, on n'a pas intérêt à réformer l'impôt. Et en fait, non, c'est ça le problème.
Et puis, les patrimoines se sont appréciés aussi, que ce soit des patrimoines immobiliers ou des patrimoines financiers depuis une trentaine d'années.
Oui, c'est ça qui est un peu trompeur. Justement, tout dépend quel est le dénominateur. Si vous regardez les recettes fiscales par rapport à l'ensemble des recettes fiscales, donc ça reste autour de 1%. Si vous regardez par rapport à la valeur du patrimoine, vous avez vraiment le rendement de l'impôt, donc par rapport à la base taxable finalement, là on a une diminution qui est assez marquée depuis les années 2000, parce que vous avez en effet une augmentation de l'impôt assez importante. Enfin, du patrimoine, pardon, assez importante.
Jonathan de Goupil-Lebret.
Et justement, il y a un paradoxe, parce que la plupart des économistes trouvent que l'impôt sur les successions est un très bon impôt, alors que au sein de la population, on peut avoir des oppositions fortes, et donc il y a justement des économistes qui ont cherché à mieux comprendre pourquoi cet impôt est si impopulaire au sein de la population. Et donc ils se sont rendus compte que, en fait, beaucoup de gens ne connaissent absolument pas les détails de l'impôt sur les successions, et c'est ça qui le rend impopulaire. Dès lors qu'on explique aux gens que c'est un impôt qui touche principalement les individus les plus fortunés, dans ce cas-là, le taux d'acceptation de l'impôt sur les successions augmente considérablement. Et de la même manière, il y a des chercheurs suédois qui ont expliqué aux gens dans quelle mesure l'impôt sur les successions pouvait permettre de limiter les questions de transmission des inégalités d'une génération à l'autre. Et dans ce cas-là, lorsqu'on met en lumière l'importance de l'impôt sur les successions pour limiter ces inégalités, le soutien à l'impôt sur les successions augmente considérablement.
Alors on va revenir sur l'impopularité de cette fiscalité sur les successions, mais un dernier mot sur ces recettes fiscales des donations qui augmentent doucement ou qui se stagnent relativement, mais c'est aussi lié au fait que le nombre de décès ne cesse d'augmenter. On a la régénération des boomers, ce qui est en train d'être dans cette période où les décès augmentent. On aurait 650 000 décès en 2035, qui ferait 25% de plus environ par rapport à 2000.
Oui, ça, on a beaucoup de paramètres pour expliquer à la fois l'évolution des recettes et l'évolution des successions en général. Vous avez la valeur du patrimoine à un moment donné. Donc aujourd'hui, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, justement, que les prix avaient beaucoup augmenté, les gens ont eu le temps d'accumuler, donc détiennent beaucoup plus. Il y a aussi, ce qui est important, c'est le patrimoine avec lequel vous décédez. Et donc ça, pareil, ça suppose aussi ce qu'on appelle les modèles de cycle de vie. Donc c'est tout dépend comment vous vous comportez durant votre vie, quelles sont vos périodes d'épargne, vos périodes de désépargne. Et tout le débat aujourd'hui, au-delà des questions des baby-boomers, par exemple, qu'on peut avoir sur les retraites, c'est directement, ça peut jouer directement sur ce qui se passe au moment de l'héritage. C'est-à-dire que si les dernières années de votre vie, vous avez une pension qui est très faible et vous êtes obligé de consommer votre patrimoine, ça fait qu'au moment du décès, vous pouvez avoir un patrimoine très faible alors que vous l'avez eu très fortement au moment de votre vie. Donc il y a tout un tas de débats sur la dépendance, sur les retraites et aujourd'hui aussi sur les questions de mortalité qui en effet jouent là-dessus. Et donc la question des baby-boomers, ça peut être en effet justement transitoire avec beaucoup de décès à un moment donné qui fait qu'il y a beaucoup de circulation à ce moment-là aussi.
Ouais. Et puis peut-être qu'aussi les recettes fiscales n'augmentent pas tant que ça, puisqu'il y a d'abord les donations qui permettent de diminuer largement l'impôt. Et aussi, on sait que chez ceux qui possèdent le plus de patrimoine, il y a davantage de stratégies d'évitement de l'impôt, Nicolas Frémaux et Jonathan Goupil-Lebret ensuite.
Oui, c'est un des éléments, enfin je parlais tout à l'heure des biens exonérés, un des éléments aussi qui font que certaines à succession égale, on peut faire face à des taux d'impôt très importants ou des taux beaucoup moins importants, c'est la façon de préparer sa succession en fait. Et donc cette question à la fois d'information, justement le fait que les gens connaissent assez mal le fonctionnement de l'impôt et le fait de pouvoir la préparer en amont joue beaucoup. Donc le fait d'arriver justement à faire des donations régulièrement assez tôt dans sa vie. Si vous avez beaucoup d'enfants, c'est pareil, vous pouvez donner à 100 000 euros à chacun de vos enfants tous les 15 ans, puis donc cette durée-là a un peu changé au cours du temps. Vous pouvez en fait le transmettre beaucoup plus que cet abattement de 100 000 euros. Vous pouvez transmettre assez rapidement plusieurs millions d'euros en fait, en bénéficiant à fond de tous ces abattements-là. Donc les personnes les mieux préparées finalement sont celles qui payent le moins d'impôts, et celles qui justement qui n'ont pas préparé peuvent faire face à des taux d'impôts assez importants aussi.
Jonathan Goupil-Lemret.
Oui, justement, jusqu'en 1992, il y avait une neutralité entre le fait de laisser un patrimoine à la mort ou de panacher ces transmissions entre donations et héritage. Et en fait, avec la loi de 1992, c'est ce qu'expliquait Nicolas, il y a eu une décorrélation entre l'imposition sur les donations et l'imposition sur les successions, ce qui permet aux individus les plus fortunés de transmettre des montants très importants sans payer d'impôts en mettant en place des donations tout au cours de leur vie. Et donc, par exemple, pour vous donner une idée, donc pour un couple avec deux enfants, chaque individu peut transmettre 100 000 euros à chacun de ses enfants. Et donc, ça veut dire que, en totalité, on peut transmettre 400 000 euros tous les 15 ans. Mmh. Et donc, si on commence à préparer sa succession à 50 ans en faisant des donations, dans ce cas-là, on peut transmettre pratiquement 1 200 000 euros sans payer aucun impôt sur les successions.
Alors, est-ce qu'on se dirige vers une société d'héritiers? Quelle question est-ce que cela pose? On en parle dans un instant.
Il y eut un héritage dans la rue des Trois Mages. Un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de vitelle et une coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme courbant les chines, et qui leur dit: messieurs, ne dites pas qui est-ce, je suis le cousin de la nièce de l'homme qu'on met en pièces, et c'est pour ça que je veux, hein, puisque vous voulez. La table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de vitelle et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Prague un personnage très vague qui portait une bague et qui leur dit: messieurs, ma grand-mère, volage, fauta dans son jeune âge avec le marchand de fromage, et c'est pour ça que je veux.
Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore?
La table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de vitelle et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Ce fut le diable à quatre, les hommes voulurent se battre, les femmes devant l'âtre, appelées police secours, commencement d'incendie et presque épidémie, collective folie. Et tout ça pour une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de vitelle, un fauteuil à bretelles, une table à coucou, histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
C'était l'héritage infernal de Charles Trenet. Nicolas Frémaux et Jonathan Goupil-Lebret sont toujours avec nous pour parler de la place de l'héritage dans la société. Alors, comment empêcher ce retour à une société de rentiers que certains prédisent? Le think tank Terra Nova propose d'augmenter de 25% le rendement de la fiscalité des successions. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Frémaux?
Je pense que c'est un enjeu qui est très important. En effet, on revient à une société où non seulement l'héritage joue un rôle assez important, mais surtout très, très fortement concentré. Donc, c'est pas comme s'il y avait un retour démocratique où tout le monde héritait à peu près des mêmes montants. On a bien quelque chose qui est très concentré.
Ce qu'on pourrait imaginer, effectivement, qu'une société d'héritiers, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler de nos voeux.
Oui, c'est ça. Donc, c'est qu'il est important de passer de l'agrégat. Donc, quand on parle des deux tiers du patrimoine qui vient de l'héritage, à la limite, pourquoi pas? Enfin, ça pose après des questions d'efficacité, mais c'est pas forcément quelque chose qui est inégal. Là, ce qu'on voit dans l'histoire, ça confirme assez souvent, c'est que c'est très, très inégal. Donc, ça pose vraiment des questions d'égalité des chances. Ça pose aussi des questions, notamment les économistes travaillent beaucoup sur cet aspect-là, c'est des questions d'incitation, c'est-à-dire que l'héritage, bah, très tôt, notamment par les philosophes libéraux, était critiqué, non pas forcément pour des questions de justice sociale, mais bien pour des questions d'incitation, en disant que si vous héritez, bah, vous êtes moins motivé à travailler, enfin, vous n'avez pas besoin de vous faire tout seul. Donc ce que met Stuart Mill en évidence dès le 19e siècle, ce que mettent les philanthropes américains aujourd'hui comme Warren Buffett, c'est vraiment ça, c'est qu'hériter, c'est pas faire, enfin, transmettre un patrimoine, c'est pas faire un cadeau entre guillemets à ses héritiers. Donc c'est aussi un des arguments qui est mis en avant.
Et en même temps, ça se heurte, cette volonté se heurte à cette impopularité des taxes sur l'héritage dont on parlait, Jonathan Goupil-Lebret. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la majorité de la population considère les impôts sur les successions comme illégitimes. Il y a un certain nombre de sondages qui le disent. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? Il y a plusieurs arguments qui reviennent régulièrement.
Oui, justement, et je pense que cette impopularité, elle est liée justement à la dimension familiale de l'héritage. On vient de perdre un défunt et on se raccroche justement au bien qu'on va pouvoir hériter de lui. Et donc on se sent un petit peu dépossédé justement quand on est obligé de vendre sa maison de famille, par exemple, pour payer les impôts sur les successions. Mais souvent, cette image-là colle assez peu à la réalité, puisqu'en fait, avec les abattements, l'impôt sur les successions ne pèse vraiment que sur les 10% des individus les plus fortunés. Et donc c'est pour ça que les économistes ont cherché vraiment à comprendre pourquoi il y avait une telle dichotomie entre ce que pensaient les individus de l'impôt sur les successions et ce que pensent les économistes.
Ce qu'on entend souvent chez les défenseurs de l'héritage, c'est cette idée que taxer l'héritage, ce serait taxer le patrimoine deux fois. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Oui, alors... Justement, cette idée-là, elle vient d'un modèle des économistes qui a été développé au début des années 70. Et dans cette idée-là, justement, les individus ont des revenus du travail, donc ils épargnent et ils choisissent de ne pas consommer leur patrimoine pour le transmettre à leurs enfants. Et donc, dans ce cas-là, l'impôt sur les successions, ça serait un impôt qui viendrait taxer deux fois les revenus des individus, puisqu'ils sont taxés une première fois au titre de l'impôt sur le revenu et une seconde fois au moment de la transmission. Mais on pourrait répondre que de la même manière, on taxe aussi la consommation des individus et donc on taxe les revenus deux fois lorsque les individus travaillent et lorsque les individus consomment.
Par le biais de la TVA, on taxe effectivement la consommation.
Exactement. Et ensuite, il ne faut pas perdre à l'esprit que l'héritage joue un rôle extrêmement important dans la continuité des inégalités. Et donc, aujourd'hui, on a des individus qui travaillent, mais très souvent, ils ont aussi pu avoir une partie importante de leur patrimoine qui vient justement de l'héritage. Et eux, les héritiers n'ont jamais été taxés pour cette partie du patrimoine qu'ils possèdent.
Mais en même temps, cette idée demeure, cette idée aussi que beaucoup de gens font des sacrifices pour transmettre à leurs enfants, et c'est cela aussi qui explique qu'on veut absolument protéger son patrimoine et son héritage.
Oui, c'est vraiment cet argument-là qui est mis en avant, au-delà une question de méconnaissance, mais même quand vous informez les gens, il y a certains qui vont changer d'avis, certains ne changent pas quand même d'avis. Il y a une étude en France, c'était France Stratégie, qui montrait justement donc ce côté très impopulaire de l'héritage, et qui montrait aussi que cette impopularité, retrouve chez les gens qui ont du patrimoine à transmettre, donc on pourrait se dire c'est normal, ils aiment pas être taxés, donc ils s'opposent à cet impôt là mais on le retrouve aussi chez les personnes qui n'ont hérité de rien et qui ne prévoient ne rien transmettre. Donc il y a aussi un côté justement de pas touche à la famille, mais y compris celle des autres et pas forcément la sienne. Donc il y a aussi cet argument de valeur familiale qui est en fait très très puissant et qui est assez dur à contrer.
Et puis il y a un autre argument qui est avancé par les libéraux, c'est cette idée selon laquelle les droits de succession en France feraient fuir les plus aisés et seraient donc contre-productifs sur le plan économique. C'est vrai, Nicolas Frémaux ?
En tout cas, c'est très dur de le mesurer en France, vu qu'on n'a pas vraiment de données. Donc on peut avoir cet argument-là en citant toujours des exemples. C'est souvent ce qui est fait par les différents think tanks. On va citer l'exemple de quelqu'un qui est parti. Bon, sauf qu'on ne cite pas les 10 exemples de personnes qui sont revenues ou qui sont restées. Donc c'est très bien de se baser sur Johnny Hallyday. Mais bon, il y a aussi plein de gens qui restent en France. On est le pays qui a le plus de millionnaires en Europe. Donc c'est-à-dire que tout le monde, ça va à peu près bien quand même pour les millionnaires, si on regarde les données un peu, enfin, anecdotiques et les données macroéconomiques. Et si on regarde certaines enquêtes, donc qui ne portent pas sur la France, mais qui pourraient finalement être appliquées à la France, c'est qu'il n'y a pas d'exil forcément massif. C'est-à-dire que dans une étude qui a porté une sur les États-Unis et l'autre sur la Suisse, et comparer les différences de taux d'imposition selon donc les États aux États-Unis ou les cantons en Suisse, où tous les États justement ne vont pas mettre en place le même impôt sur les successions. Et ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas de mouvement massif en fait vers les États les plus cléments fiscalement. Donc alors que justement les retraités pourraient être les mieux à même de partir, et ça c'est très facile vu que c'est au sein du même pays, on n'a pas de mouvement. Et pareil en Suisse où il y a des différences assez importantes. Donc ça ne veut pas dire que les gens réagissent pas à l'impôt. Il ne faut pas non plus surinterpréter le résultat.
Mais il ne faudrait pas imaginer de fuite massive comme on peut parfois le lire à droite ou à gauche. Jonathan Goupil-Lebret.
Oui, exactement. Donc, les études ont montré que les variations d'impôts sur les successions ont un impact très limité sur l'exil fiscal, alors même que ces études s'étaient intéressées à des déplacements entre régions au sein d'un même pays. Alors on peut penser qu'en France, les réponses seraient potentiellement moins importantes parce que dans ce cas-là, il faudrait changer de pays et donc faire face à des différences culturelles bien plus importantes. Et je voudrais aussi dire que à côté de l'exil fiscal, l'impôt sur les successions peut aussi jouer sur le comportement d'épargne, d'investissement ou de consommation des individus. Et même là, quand on essaye justement de mesurer l'amplitude de ces réponses comportementales, on trouve des réponses assez limitées. Les gens répondent assez peu aux variations d'impôt sur les successions de leur vivant.
Donc l'efficacité économique est particulièrement difficile à mesurer, Nicolas Frémaux. Du fait de taxer plus ou de taxer moins, en réalité, on ne sait pas vraiment.
Oui, c'est juste pour rebondir peut-être sur le code exil fiscal, c'est que vous avez aussi, cet exil-là, l'idée qu'on en a, ça va aussi dépendre du système fiscal lui-même. Aux États-Unis, c'est très compliqué de quitter le pays parce que, ou de déménager finalement avec tous ces actifs, parce que vous pouvez perdre la nationalité aussi américaine derrière, ce qui vous confère quand même pas mal d'avantages. Donc il y a aussi, vous pouvez encadrer comme ces exils-là, ça peut dépendre de vous. Et en effet, après mesurer l'efficacité, ça peut être assez complexe. Parce que donc, les données disponibles sont assez rares et ne permettent pas forcément de faire tout ce qu'on voudrait. Donc on aimerait tous les chercheurs en tout cas, avoir beaucoup plus de données. Mais il y a quand même pas mal de résultats pour montrer que l'efficacité, la désincitation plutôt générée par l'impôt sur l'héritage est assez limitée. Au final, dans les faits empiriques, alors que la théorie pourrait très bien être crédible, dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup plus limité que ce qu'on peut penser.
S'il vous plaît, on passe à table dans 10 minutes.
Oui, avant de déjeuner, j'aimerais m'entretenir avec mes enfants dans le salon. Oui, donc, ça concerne le trust familial qui décidera de la suite des événements dans le cas peu probable où je viendrai à disparaître. Je compte ajouter Marcy en plus de mon nom et de vous quatre.
Wow, ok.
Et ma voix lui reviendra aussi, à ma mort.
Quoi? Attends, ça lui donnera une double voix?
Alors, j'ai de la paperasse à vous.
Quoi? Donc Marcia aura deux voix quand tu...
Si il...
Non, Roman, c'est bien un quand.
Ah, excuse-moi si j'ai pas envie de...
Ce dont on a envie n'est pas à l'ordre du jour.
Kendall a déjà signé. Mais il me faudrait
quoi
toutes vos...
Deux voix, j'étais pas du tout...
Eh ben, allez, un petit caractère la prochaine fois, du coup.
Il faut que j'en parle à mon avocat. Je dois connaître toutes les répercussions.
Bien sûr.
Pour signer et m'engager.
Oui, je t'en prie. Oh, j'oubliais. Comme je l'ai évoqué avec Kendall, en dépit de ce qu'on entend et tout bien considéré... Je m'accorde encore quelques années.
En tant que...
En tant que président, directeur, général.
Quoi? Tu quoi?
J'ai pas été assez clair? À moins que t'aies pas écouté, comme toujours.
Attends.
Oh putain.
Je sais pas ce qui te fait rire dans ce merdier.
Ça me fait pas rire, mec. Quoi?
Merde. C'est quoi ce bordel?
Un extrait de la série Succession diffusée sur HBO. Logan Roy, PDG de l'Empire des médias et du tourisme Wester Royco, s'amuse à mettre en compétition ses quatre enfants qui convoitent son fauteuil. Qu'est-ce qui est spécifique, Nicolas Frémaux, dans la transmission d'une entreprise? Parce qu'on peut entendre parfois certains économistes dire que les droits de succession devraient être allégés dans le cadre de l'entreprise pour le bien de l'économie.
Les arguments mis en avant, souvent, c'est de dire que si l'entreprise est gérée par, au sein de la même famille, on va avoir une vision à plus long terme, donc ça va être justement du moins court-termisme, ça peut être plutôt bon pour l'économie, pour l'entreprise elle-même, évidemment, en premier lieu, pour les employés, pour les autres actionnaires, évidemment. Sauf que dans les faits, ce que montrent plusieurs études, c'est que, plus généralement, l'héritier fait moins bien que le fondateur. Vous avez beaucoup, justement, d'études qui ont essayé de montrer alors qu'on retrouve cette exonération-là dans tous les pays, on va tenter à faciliter, justement, les transmissions d'entreprises pour ces arguments-là. Ce qui est montré, c'est que généralement, les entreprises font plutôt moins bien une fois qu'elles sont héritées. Donc, ce qui tente à dire qu'on aurait peut-être plutôt intérêt à la transmettre à un autre gestionnaire, à quelqu'un qui reprend l'entreprise, pas forcément au fils de la famille, généralement, c'est le fils, mais ça peut être aussi la fille, évidemment. Et c'est pas la seule raison, le seul fait d'être l'enfant du fondateur fait pas de vous un bon entrepreneur forcément. Donc là-dessus, le problème, c'est qu'en France, à nouveau, on a donc beaucoup d'exonérations de ce point de vue-là. On a le pacte Dutreil qui existe. Le problème, c'est qu'il n'est pas évalué. Donc on ne peut pas savoir vraiment ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Ça pourrait très bien l'être à nouveau. Si l'entreprise est mieux formée, est mieux gérée après, tant mieux pour les employés. Là, le problème, c'est que vous ne faites pas forcément un cadeau ni à l'héritier, ni aux employés. C'est-à-dire que si l'entreprise met la clé sous la porte 2 ans après, ça retombe sur la collectivité parce qu'on va devoir tous payer des impôts pour verser des indemnités chômage. Donc, c'est une raison vraiment.
Donc, ces allègements qui seraient accordés dans le cadre de la transmission d'une entreprise ne se justifieraient pas sur le plan économique, Jonathan Goupil-Lebray?
Oui, donc c'est ce que disait Nicolas Frémaux, et je voudrais compléter ça par le fait que le fait de recevoir une donation a un âge justement à un jeune âge, peut permettre au contraire de favoriser la création d'une entreprise. Et donc on pourrait très bien penser à un système d'imposition dans lequel on taxerait fortement la transmission des entreprises et les recettes seraient ensuite redistribuées à l'ensemble d'une classe d'âge, plutôt des jeunes, pour leur permettre de créer des entreprises. Et donc dans ce cas-là, on pourrait avoir des effets très bénéfiques de l'impôt sur les successions.
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que depuis les années 2000, il y a eu un certain nombre de réformes, des donations, des successions. Et ce sont des réformes que vous aviez étudiées de près, Jonathan Goupil-Lebray. Est-ce que selon vous, on est allé trop loin dans les exonérations d'impôt sur les successions? Est-ce que ça a représenté un manque à gagner important pour l'État?
Oui, exactement. Donc il y a deux grands piliers d'exonération d'impôt sur les successions. Donc il y a les donations d'un côté et l'assurance vie de l'autre. Et donc les donations permettent à des individus de diminuer très fortement l'impôt sur les successions s'ils anticipent très fortement la transmission de leur patrimoine durant leur vie. Et donc au cours du temps, il y a eu des réformes qui ont été mises en place. Donc depuis 92, on avait tendance à favoriser justement le recours aux donations pour limiter l'imposition des successions. Et depuis 2012, on a justement essayé de limiter cet effet pervers pour rendre le recours aux donations moins important quant à son impact sur l'impôt sur les successions. Et de la même manière, il y a aussi les assurances-vie qui jouent un rôle très important, puisque avant 1992, les individus pouvaient mettre l'intégralité de leur patrimoine dans un contrat d'assurance-vie qui pouvait ensuite être transmis à l'héritier en toute franchise d'impôt. Et donc ça, c'est un mécanisme extrêmement important. Et donc, il y avait un rapport de la Cour des comptes qui montrait justement qu'à cette époque-là, beaucoup d'individus extrêmement fortunés se servaient des contrats d'assurance vie pour transmettre leur patrimoine à leurs héritiers sans payer d'impôts.
Mais alors, s'il faut augmenter ces impôts sur les successions, comme le propose le think tank Terra Nova, est-ce qu'il faudrait davantage taxer les héritiers en ligne collatérale, les héritiers en ligne directe? Est-ce que vous en pensez, Nicolas Frémaux?
Tout dépend ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que si vous voulez protéger la famille, vous avez tendance à justement épargner peut-être les successions en ligne directe. Et en même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui taxe de façon quasi aveugle les transmissions en ligne justement collatérales. Donc les personnes qui décèdent à nouveau sans enfants, on pourrait avoir des gens très riches comme très pauvres au sein de ces personnes-là, et surtout taxés très fortement. Donc on peut se dire, peut-être qu'il faut simplement regarder le montant total reçu par les individus. Et ce qu'on peut trouver comme recommandation, c'est celle-là. C'est regarder ce que reçoit un individu au cours de sa vie en donation, en héritage, peu importe d'où ça vient finalement, que ce soit un tonte, une tante, un oncle, le père ou la mère ou le grand-père, etc. Et avoir un taux d'imposition sur ce total-là. Et
donc, parce que ça nous donne une image un petit peu de la famille telle qu'elle devrait être, telle qu'elle doit être. Ça légitime en quelque sorte une forme familiale, cet impôt sur les successions, Nicolas Frémaux.
Oui, et aujourd'hui, ça pose aussi beaucoup de questions. C'est qu'on peut vouloir aussi sauter des générations, passer donc des propositions là-dessus pour passer directement des grands-parents aux petits-enfants pour rajeunir le patrimoine. Vous avez aussi le cas assez beaucoup de plus en plus fréquent des cas des familles recomposées où justement vous pouvez vouloir transmettre un patrimoine à l'enfant de votre conjoint, avec qui vous n'avez pas eu d'enfant avec lui, votre beau-fils ou votre belle-fille. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué, justement, parce qu'il est considéré comme un étranger pour vous. Donc vous allez faire face à un taux d'imposition très important, sauf à l'adopter, ce qui rend les choses assez compliquées. Donc ça légitime une forme de famille, mais aujourd'hui, c'est plus forcément adapté aux nouvelles formes familiales.
Mais le droit accompagne tout de même ces évolutions familiales. Jonathan Goupil-Lebray, on l'a vu au moment du pacte, il y avait eu un certain nombre de discussions autour du conjoint, de comment transmettre à son conjoint. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, Nicolas Frémaux.
Oui, c'est un des éléments, mais à nouveau, ça ne répond pas à tous les problèmes. En effet, le pacte, c'était une nouvelle forme d'officialisation, on va dire, du couple. Et aujourd'hui, vous pouvez transmettre, en effet, le conjoint marié et le conjoint pacsé sont mis sur un pied d'égalité à condition d'avoir fait un testament. Donc à nouveau, il faut être bien informé. Sinon, si vous voulez transmettre à votre conjoint, vous n'avez pas fait ce testament, il va payer énormément parce qu'il est considéré comme un étranger aussi. Pour les couples qui sont non mariés, c'est pareil. Donc on pourrait se dire, aujourd'hui, on fait dépendre la fiscalité donc des successions et plein d'autres aspects du lien vraiment matrimonial, alors qu'on devrait peut-être le faire dépendre de la communauté de ressources, du fait d'avoir créé quelque chose ensemble, et pas forcément du lien légal qui existe.
Vous l'avez dit, l'héritage, c'est ce qui assure une certaine continuité familiale. C'est ce que disent ces défenseurs. Et alors, je vous propose d'écouter un extrait du film « Ce qui nous lie » de Cédric Clapiche, suivi de la sociologue Anne Gottman.
Tu voudrais partir en Australie après?
Ouais, je pense, ouais.
Ça donne pas envie de rester là, tout ça?
Ouais, mais je sais pas ce que vous voudrez faire après, mais moi, je me vois pas vivre ici.
Qu'est-ce que tu veux dire? Que si tu retournes en Australie, tu vas vouloir vendre tes parts de l'héritage, c'est ça?
Les parts de l'héritage? Le vieux... Le vieux meunier voulut laisser son moulin à l'aîné, son âne au cadet et ses parts au Benjamin.
Je veux pas deux secondes arrêter tes conneries, je te pose une question là. C'est ça que t'as en tête depuis que t'es revenu, c'est se vendre une partie du domaine, Jean. C'est pas possible quoi. Il te balance ça et il se casse.
Le rapport que vous avez à l'héritage, enfin au bien de vos parents, passe par le rapport qu'ils ont eu, eux, à leur bien. Est-ce qu'ils en ont hérité? Est-ce qu'ils l'ont gagné à la sueur de leur front, etc. C'est ça que vous prenez aussi. Je me souviens de femmes qui avaient reçu de leurs parents, qui étaient des ouvriers agricoles, c'est-à-dire des gens très, très modestes, qui avaient réussi à la fin de leur vie à acheter une petite maison. Et cette femme qui avait un emploi tertiaire, qui était propriétaire, qui était... Cette maison, c'était la sueur de ses parents. Elle n'allait pas en faire n'importe quoi, je peux vous dire.
Nicolas Frémaux, qu'est-ce que ces deux extraits nous disent des affects que l'on peut mettre dans un héritage, qu'il s'agisse d'une maison, de meubles, d'objets ?
Bah, montre évidemment que l'héritage est très important pour des valeurs morales pour les individus, au-delà de la valeur économique que ça. Il y a beaucoup aussi de travaux sociologiques qui montrent qu'on peut avoir des conflits entre les héritiers, même quand il n'y a pas une valeur très importante. Là, on voyait l'extrait de succession tout à l'heure, mais même sans avoir, même quand il y a quelques meubles, un album photo, on peut avoir des conflits assez importants. Et l'idée, enfin, ça rejoint aussi ce qu'on dit tout à l'heure sur la mauvaise information, c'est qu'à aucun moment, justement, la fiscalité va prendre, si le pavillon est d'une valeur modeste, ce dont on parle dans l'extrait, à aucun moment la fiscalité ne va, il y a peu de chances que ça prenne, que ça oblige la personne à vendre cet aspect-là. Et donc, c'est ce que recommandent aujourd'hui les économistes. Il y a toujours cette valeur morale, mais ce qui est recommandé, c'est taxer fortement, mais de façon progressive. C'est-à-dire que les personnes qui ont quelques biens à transmettre, ce que je pense, il faut qu'elles soient toujours exonérées. Le fait qu'il y ait 85% de transmission en ligne directe exonérée, c'est très bien. C'est pas elle qui pose problème. C'est pas le petit pavillon de banlieue que vous allez transmettre qui pose problème. C'est quand vous avez des millions d'euros qui se transmettent et des dynasties qui perdurent dans le temps sans aucune justification. Donc c'est bien ça l'idée. Mais évidemment, il y a une valeur morale très, très attachée à tous les objets de valeur. Enfin.
Une valeur morale qui serait perdue si on abolissait complètement l'héritage, Jonathan Goupil-Lebray.
Oui, bien sûr. Et les économistes en sont conscients. C'est pour ça que dans la plupart des travaux des économistes, on voit que l'objectif n'est pas de prendre la petite maison d'un héritier qui aurait hérité un héritage assez modeste, mais c'est plutôt de limiter la perpétuation des inégalités. Et donc l'objectif, c'est plutôt de ne pas revenir à la France du début du XXe siècle, on avait une petite minorité de gens qui pouvaient transmettre des grosses fortunes de génération en génération et vivre intégralement des revenus du capital qu'ils en tiraient.
Il y a les économistes qui se sont posé la question de ce qui se passerait si on supprimait l'héritage avec cette idée que chacun à ce moment-là hériterait donc non plus de ses parents, de sa famille, mais de l'État. Mais en même temps, est-ce que dans ce cas, les gens ne dilapideraient pas leur argent plutôt que de le laisser à l'État, Nicolas Frémaux ? C'est un peu le problème que ça pose.
Oui, bah c'est un peu. Oui, on peut trouver cet argument-là justement pour les personnes qui vont s'opposer à la dotation universelle en disant que si vous n'êtes pas diplômé, vous allez mal le gérer. Bon, y a des gens très fortunés qui gèrent aussi mal le patrimoine. On peut trouver des exemples d'entreprises transmises entre générations qui ne fonctionnent pas très bien aujourd'hui. Donc c'est un argument qui est un peu limite aussi, qui est un peu paternaliste de dire ça. Mais en effet, on pourrait très bien avoir cet argument-là.
Vous ne croyez pas qu'il y a tout de même un attachement plus fort à effectivement épargner dans le but de transmettre et que c'est quelque chose qui s'effondre dès lors qu'il n'y a plus d'héritage et qu'on laisse tout notre argent, notre patrimoine à l'État, Jonathan Goupil-Lebray ?
Oui, bien sûr. C'est sûr que si on avait un impôt sur les successions qui prenait 100% du patrimoine, dans ce cas-là, personne n'aurait intérêt à accumuler du patrimoine durant sa vie. Mais on pourrait voir aussi d'autres usages à l'épargne et au patrimoine. Et donc, dans ce cas-là, si on sait que l'intégralité de son patrimoine sera saisie par l'État, dans ce cas-là, peut-être qu'on va modifier ses comportements au cours de sa vie et cela permettra d'éviter justement un vieillissement du patrimoine. Puisque du coup, le patrimoine sera beaucoup plus mobile, les gens le consommeront plus, ça pourra stimuler l'économie, et ainsi de suite.
En tout cas, ça pose la question de la conception qu'on a de son patrimoine. Est-ce qu'on estime qu'on l'a constitué grâce à son propre mérite, ou est-ce que c'est dû à d'autres facteurs, Nicolas Frémaux ?
Oui, il y a beaucoup de facteurs. Peut-être le facteur principal, c'est... Tout va dépendre des individus. Ça peut être le mérite de la personne, justement, qui est partie de rien, qui a monté son entreprise, ou qui a épargné petit à petit. Ça peut être l'héritage, donc les ancêtres pour celui qui a hérité, mais vous avez aussi le rôle de l'État finalement qui va jouer. Le fait de, aujourd'hui, si vous créez une entreprise, vous bénéficiez du système scolaire dans lequel vous avez été formé. Donc si vous avez suivi votre formation en France, vous avez le système de santé qui vous permet de rester justement, de rester en bonne santé. Vous avez toutes les infrastructures qui vous permettent de monter votre entreprise, de la maintenir, le système légal, etc. Donc une des justifications de l'impôt, que ce soit sur les successions, sur d'autres types d'impôts, c'est ça, c'est le rôle que l'État finalement a. Et donc l'État peut, dans ce cas-là, est légitime pour reprendre une partie. Donc après, tout dépend comment il le fait, évidemment, mais l'État voilà, joue un rôle, évidemment, dans aussi la constitution de votre patrimoine, que vous le voyez ou non.
Mais dans le discours c'est de certains, on ce rôle de l'État est parfois oublié et tout une part beaucoup plus importante est accordée au mérite et au fait que voilà, si on a réussi par exemple à monter son entreprise, on l'a réussi en grande partie seule, enfin en tout cas la part du mérite et la part de son capital social et des aides de l'État, tout se joue dans ce qui est dû à l'un ou à l'autre.
Oui, on oublie souvent donc le rôle de l'État à travers le système éducatif, mais même sans parler de ça, on peut imaginer 10 individus qui auraient monté leur start-up. Les start-up sont toutes innovantes, mais il n'y en a qu'une seule qui va réussir à percer et un seul individu qui sera milliardaire. Et donc dans ce cas-là, cet individu va réussir à gagner énormément d'argent, mais il faut pas oublier également les 9 autres personnes qui avaient créé une entreprise innovante mais qui n'ont pas percé. Et donc il faut pas sous-estimer l'impact de la chance aussi dans la réussite.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot sur la transmission et la fiscalité qui l'accompagne. Nicolas Frémaux, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer justement une réflexion globale en France sur le rôle et le sens de l'héritage? Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui manque aujourd'hui?
Oui, c'est un débat. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, notamment par rapport aux extraits qu'on peut trouver dans les romans avec Maupassant, chez les penseurs aussi du 19e siècle, y compris enfin, peut-être plus les philosophes que les économistes en fait, où il y avait des débats qui étaient très, très virulents, qui étaient des oppositions assez importantes et des grands débats. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un débat qui est laissé vraiment, qui est secondaire. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas du tout. Normalement, les travaux de Thomas Piketty ont remis le patrimoine et l'héritage sur le devant de la scène, mais c'est un débat qui est vraiment secondaire, qui est très souvent balayé d'un revers de la main, notamment par le gouvernement actuel. Et donc il faudrait vraiment avoir une réflexion sur voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une société. On parle de nouveau monde, là on est en train de revenir à un ancien monde, et donc ça pose vraiment des questions sur, voilà, sur le patrimoine aujourd'hui, la conception qu'on en a et sur sa transmission.
Et se demander effectivement qu'est-ce qu'on transmet, quand on transmet, Jonathan Goupil-Lebré.
Oui, exactement. Et à travers les débats sur la question de l'héritage, en fait, on ouvre une boîte noire sur qu'est-ce que c'est que la méritocratie, dans quelle mesure un individu mérite sa situation ou non, quels sont les facteurs qui l'ont aidé. Et donc, on a besoin, je pense, d'un débat justement sur toutes ces questions-là et essayer justement de mieux réfléchir au système d'imposition qui pourrait permettre de concilier justement ces différents aspects.
Un débat qui est largement pris en charge par des responsables politiques et qui devrait revenir davantage dans l'espace public dans les prochains mois. Un grand merci à tous les deux. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
8 milliards d'euros d'investissement, c'est ce que prévoit le ministre de l'économie pour le sommet Choose France qui se tient aujourd'hui à Versailles. Confirmation de la reprise de l'attractivité industrielle française.
Eh bien en tout cas, avec déjà plus de 3,5 milliards d'euros annoncés, dont une commande de 2 milliards à elle seule par le croisiériste MSC au chantier de Saint-Nazaire. C'est 3e édition de l'événement Choose France, voulu par l'Élysée pour les investisseurs étrangers, prend bien des allures de vitrine des réformes fiscales de la présidence Macron. Vitrine et test avec ces dernières semaines la publication de plusieurs études qui confirment effectivement la reprise de l'industrie française ces dernières années. Rien qu'en 2019, c'était 5 milliards d'euros d'investissements supplémentaires et 20 000 créations d'emplois nets. Selon le Forum économique mondial, la France remonte même de 7 places en 2 ans dans le palmarès des 20 pays les plus attractifs au monde, 15e position. France attractive, oui, mais une reprise industrielle fragile quand même, souligne Thierry Weil. Il est fondateur et conseiller de la Fabrique de l'Industrie.
Il ne s'agit pas d'être un pays avantageux. On est passé le coût du travail industriel et repassé un tout petit peu derrière le coût allemand. Donc on a mis fin à notre déficit de compétitivité, ou en tout cas on l'a passablement réduit. Bon, enfin, ces entreprises pourraient décider d'étendre leur capacité de production ailleurs qu'en France, et le fait qu'elles décident de le faire en France, c'est une bonne nouvelle. C'est pas non plus un tsunami, hein. Coca-Cola, je crois qu'on parle d'un milliard, AstraZeneca de 500 millions, l'investissement de l'industrie manufacturière en France est d'un peu plus de 50 milliards par an. Donc, 1,5 milliard qui arrive, c'est bienvenu, ça modifie pas totalement la tendance. Et je crois qu'on parle sur les 1300 projets d'investissement étrangers, de 30 000 emplois créés ou sauvegardés, c'est toujours bon à prendre. En revanche, on a encore un problème d'attractivité, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont restés avec l'image d'une industrie déclinante, ce qui n'est plus le cas, et les emplois offerts n'étaient pas de très bonne qualité, ce qui est de moins en moins le cas. Et donc, il n'y a pas assez de gens qui sont attirés par l'industrie ou qui se forment au métier industriel, ce qui pose un réel problème sur des sites comme Saint-Nazaire.
Et aujourd'hui, c'est à Dunkerque qu'Emmanuel Macron a voulu célébrer ce qu'il appelle ses bonnes nouvelles. À qui bénéficieront-elles ?
Eh bien, vous l'avez entendu, hein, Dunkerque, c'est là où Coca-Cola, par exemple, et le pharmacien AstraZeneca ont voulu poser leurs investissements. Autre vitrine de la politique que le président veut mettre en avant, c'est celle des 136 territoires d'industrie qui bénéficient depuis cette année de 1,3 milliard d'euros de soutien de l'État pour aider à leur attractivité. Dans les projets de Choose France, il faut noter aussi que la région parisienne n'est pas oubliée, hein, comme hub de centres de recherche et d'innovation, à voir, comme le disait donc Thierry Weil, à long terme l'image de cette industrie française également auprès des salariés.
On passe aux brèves, en pleine crise sur la réforme des retraites. Une autre réforme gouvernementale se précise, celle du RUA, le revenu minimum d'activité.
Oui, c'est le résultat aujourd'hui d'une concertation sur ce projet qui présente beaucoup de similitudes avec les retraites sur la forme, puisqu'il s'agit de regrouper en une seule allocation 6 types de prestations sociales différentes, parmi lesquelles le RSA, et de diminuer le taux de non-recours, ceci d'ici 2023. 17 millions de Français sont concernés, et là encore, le gouvernement a donc lancé une concertation. Là, à la différence des retraites, la majorité des personnes interrogées, entre 60 et 80%, valident les principes de la réforme. Comme pour les retraites, par contre, la réserve porte sur l'inconnu quant au mode de calcul et le budget, calcul de la prestation, et le budget, donc, au cas où la réforme fonctionnerait et qu'il faille payer plus de prestations, ce serait 30 milliards d'euros au minimum.
Et pour finir, le 50e forum de Davos ouvre demain, et c'est aujourd'hui la traditionnelle revue des inégalités mondiales par l'ONG Oxfam.
Oui, des statistiques toujours contestées, et là encore quand même deux enseignements. L'un ne surprend pas, c'est l'explosion des inégalités de patrimoine au niveau mondial. Les 1% les plus riches selon Oxfam possèdent autant en valeur que les 92% les moins bien dotés. Et les femmes aussi sont les premières touchées par ces inégalités. Là encore, selon les calculs d'Oxfam, 42% d'entre elles ne pourraient avoir de travail rémunéré, précisément en raison du travail familial et privé non rémunérés, ce serait équivalent à 10 milliards 800 millions de dollars en valeur chaque année, 10 milliards 800 millions de dollars en valeur chaque année, pardonnez-moi, plus que trois fois la valeur des industries du numérique.
Merci beaucoup Xavier, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast, à demain. On se quitte avec Broken Sleep, extrait du dernier album d'Agnès Obel. Un grand merci Nicolas Frémaux et Jonathan Goupil-Lebray de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Alié Tovin et Alain de Raucourt, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Audrey Guénil. Demain, retour sur l'histoire d'un business du croque-mort aux pompes funèbres. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.